Peut-être comment ça, disons, je suis vraiment très contente d'être ici, moi, et très contente qu'on m'ait invitée, parce que je pense que je suis un peu atypique parmi les intervenants et le public, puisque je ne suis pas du tout spécialiste de l'éco-pastoralisme, mais spécialiste du pastoralisme que je vais appeler ici pour simplifier de production, du pastoralisme montagnard, et notamment dans les Pyrénées. Donc effectivement, je travaille en recherche depuis plus de 15 ans là-dessus. Et puis, je suis responsable donc, de cette licence qui est très représentée aujourd'hui, puisque mon collègue Olivier Bory interviendra après, et puis que j'ai eu le plaisir de voir une étudiante toute fraîche sortie de la formation intervenir tout à l'heure. On est toujours très fiers de nos étudiants, donc c'est très bien. Donc, je vais proposer peut-être vraiment un contrepoint, je ne sais pas si c'est le mot, mais vous faire part de mon regard venu du pastoralisme de la montagne sur tout ce qui se discute ici depuis ce matin. Et j'ai trouvé ça déjà très stimulant et il y a beaucoup de choses qui font écho à ce que je voulais raconter, donc je vais essayer de faire le lien en cours de route. Et puis pour préparer cette intervention, j'ai beaucoup fait de recherches, hein, j'avoue, sur Internet, dans des revues techniques, dans des revues scientifiques. Dans les revues scientifiques, il n'y a pratiquement rien, en tout cas dans le domaine des sciences sociales. Donc je pense qu'il y a tout un champ à explorer aussi sur ces questions d'éco-pastoralisme. Peut-être encore en introduction, je voudrais revenir sur la licence professionnelle pour dire que moi, c'est dans le cadre de cette formation que j'ai été la première fois vraiment confrontée à cette dialectique entre pastoralisme de production et pastoralisme de gestion grâce aux étudiants. Alors tous ces étudiants, enfin 80% des étudiants de cette formation viennent d'un BTS gestion protection de la nature, donc ils viennent plutôt du champ de l'environnement, on va dire. Et quand ils arrivent le premier jour, je leur demande « c'est quoi pour vous le pastoralisme ?» et ils me répondent presque tous « c'est une activité de gestion de l'espace ». Et moi, mon boulot, c'est de leur expliquer que c'est peut-être aussi, et peut-être d'abord, une activité de production, que ça concerne plus d'un million et demi d'hectares en France aujourd'hui, plus d'un million et demi de brebis, 500 000 bovins, et que donc le pastoralisme, et en particulier en montagne, et j'insisterai là-dessus dans mon propos, c'est une activité de production qui, de fait, entretient l'espace. C'est ce qu'on va appeler une externalité aujourd'hui, un effet induit, pas forcément intentionnel au départ. Donc, comme il a été précisé, je vais proposer deux temps dans mon propos. Un premier temps où je vais vous dire, moi, les questions que je me pose sur ces termes, éco-pâturage, éco-pastoralisme. Et puis, dans un second temps, parce que c'est quand même ce qui m'avait été un peu demandé, même si je vais le faire un peu, la question des compétences, parce qu'en plus, je suis très, très bien accompagnée avec quelqu'un qui a des tas de choses à dire sur les compétences vraiment pratiques et techniques à mobiliser dans l'éco-pastoralisme. Et donc, moi, peut-être d'une façon un peu plus générale, à partir de mon regard sur la montagne. Alors d'abord sur ces termes, éco-pâturage, éco-pastoralisme, j'avoue que quand ça a commencé à émerger, moi j'étais un petit peu surprise. La question de la gestion des milieux par les animaux, par les herbivores, c'est pas nouveau. Moi quand j'ai fait mes études d'ingénieur dans les années 80, on en parlait déjà, je pense qu'on en parlait peut-être même avant. Par contre ces termes-là, ils me semblent assez nouveaux, mais je me trompe peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on va appeler éco-pâturage et éco-pastoralisme? J'ai envie de dire que c'est pas moi de le dire, mais quand je regarde vos productions, enfin les choses qu'on trouve sur les sites internet, tout ce que j'ai pu entendre ce matin, j'ai eu l'impression qu'on allait plutôt parler d'éco-pâturage quand primo c'était de la garde en parc clôturée, donc sans surveillance quotidienne, et puis peut-être plus tôt, c'est ce qui a été évoqué ce matin, quand on n'est pas dans la gestion d'espaces naturels, de milieux naturels, donc peut-être plutôt sur le pâturage urbain. Et puis l'éco-pastoralisme serait plutôt donc avec effectivement ce que nous on entend par le pastoralisme, l'utilisation de ressources semi-naturelles, et puis la mobilité des troupeaux qui suivent la ressource, et plutôt avec un berger, plutôt gardé, plutôt accompagné. Alors moi je vais plutôt utiliser ce terme-là, éco-pastoralisme, parce que déjà il me parle un peu plus, que je pense que c'est la pratique qui suscite le plus de questions sur les compétences, hein, qui est quand même l'objet de cette session. Et puis en plus, pour nous, dans le domaine du pastoralisme, la garde en parc, ça peut être une pratique pastorale, à condition qu'elle soit sur des espaces pastoraux, donc végétation semi-naturelle, etc. Mais on peut être sur du pastoralisme en parc. Alors, je me suis dit, bon, mais à quoi ils servent ces termes, finalement j'ai vu dans la matinée qu'au finalement, on emploie un peu indifféremment l'un ou l'autre, d'ailleurs, encore, hein, donc... Il me semble d'ailleurs que les premières journées s'appelaient éco-pastoralisme, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, donc ça a changé entre-temps. Je me suis dit, ça, c'est un avantage quand même, c'est qu'on a une définition un peu de sens commun, ce que nous on va appeler une catégorie pratique, qui permet de parler de l'entretien des milieux par les animaux herbivores. Bon, mais alors ces milieux, ils peuvent être espaces naturels, espaces verts urbains, friches, etc. Donc, ce qui me semble le point commun dans les deux termes, c'est de dire c'est une pratique, c'est le fondement qui serait non productif de la pratique. C'est une pratique de gestion des milieux. Et j'ai d'ailleurs trouvé, il faut que je retrouve, parce que c'est, je l'ai trouvé sur un site internet, une définition, plusieurs fois, hein, une définition disant l'éco-pâturage, c'est une activité ancestrale d'entretien et de restauration des espaces naturels. Et je me dis, sincèrement, de façon ancestrale, je pense que personne ne se posait la question de l'entretien des espaces naturels, mais bien la question de la production de viande ou de lait, et de fait, c'était une externalité, on entretenait l'espace. Donc, l'éco-pastoralisme serait plutôt non productif, contrairement à ce sur quoi je travaille habituellement. Mais dans notre domaine du pastoralisme de montagne, on va dire, on qualifie aussi d'éco-pastoral les pratiques d'éleveurs, d'ailleurs comme ceux qu'on a vus ce matin qui ne sont pas en montagne, d'éleveurs ou bergers qui intègrent à leur système de ressources des espaces naturels. Alors ça peut être des périmètres qu'on appelle DFCI, défense des forêts contre les incendies, ça peut être sur du Natura 2000, mais ça peut être aussi de l'ouverture paysagère pure. Hein, on commence à trouver ça par exemple dans des communes de montagne où il n'y a plus assez de pression de l'élevage, et on a besoin d'ouvrir les paysages autour des villages. Donc les éleveurs pastoraux classiques, on va dire, ils sont de plus en plus amenés à développer des pratiques favorables à la gestion des espaces naturels. Et la PAC, la politique agricole commune, pardon, les y incite, à travers en particulier ce qui s'appelle encore aujourd'hui les mesures agro-environnementales territorialisées. Donc du coup, pour moi, c'est un peu compliqué de savoir quand est-ce qu'on parle d'éco-pastoralisme ou de pastoralisme de production. Donc, sauf à dire que l'éco-pastoralisme serait que uniquement réservé aux pratiques sans acte de production, mais on a vu, bon, ça colle pas. Donc, moi, je ne sais plus, en fait, où est la limite. La limite, elle est floue, elle est perméable, et peut-être que parfois, elle est un peu artificielle. Alors, l'autre terme qui m'a... Alors, ça, c'est sur pastoralisme lui-même, mais alors, l'autre partie du mot qui, moi, me pose question, c'est le préfixe éco. Alors, je me suis dit, pourquoi ce pâturage-là, celui dont on parle aujourd'hui, serait plus écologique que le pâturage fait par les animaux d'éleveurs qui produisent de la viande ou du lait. Alors, une des hypothèses que je vous propose, mais elle est peut-être complètement infondée, c'est que le fait que ce soit développé dans l'ouest de la France, quand même, on l'a vu, on le voit bien, là, on a beaucoup d'intervenants de l'ouest, c'est peut-être une des raisons, parce qu'autour de ces pratiques éco-pastorales, les systèmes de production dominants, ils sont plutôt très intensifs, on va dire, pour simplifier. J'ai travaillé dans le développement agricole en Bretagne. C'est vrai que l'utilisation des races rustiques, c'est quand même pas la généralité. Les pratiques extensives, c'est pas non plus le référentiel dominant. Donc peut-être que, du coup, ici, ça a du sens. On a les pratiques éco-pastorales, douces pour l'environnement, à côté de systèmes classiques plus intensifs. En montagne, ça a beaucoup moins de sens. De fait, les systèmes pastoraux sont doux, les systèmes agricoles pastoraux sont doux pour l'environnement. Alors l'autre signification que je suis allée chercher, vous allez dire les chercheurs, hein, quand même, on s'amuse à préparer une intervention, mais ça m'a posé quand même pas mal de questions. L'autre signification, ça serait que cette pratique serait écologique parce que du coup on n'utilise pas de tondeuse, enfin ou de débroussailleuse, etc. Donc par rapport à des moyens d'intervention mécanique, on serait écologique. Et la fiche de la journée qu'on n'a pas là en fait ici, moi, j'ai trouvé éclairante à ce sujet, puisqu'on avait les chèvres, les vaches, enfin une chèvre, une vache, une brebis, hein, avec écrit en dessous tailleuée, débroussailleuse et tondeuse. Donc, dans ce cas-là, on envisage l'animal domestique, quand même, explicitement comme un outil alternatif à une technique d'aménagement classique. Et ça, moi, j'avoue que ça me laisse un peu dubitative. Alors, l'image, elle me paraît intéressante, elle est facile à comprendre, elle est amusante en plus, hein, donc ça peut faire passer un message, mais ça peut, d'après moi, amener à des situations que je qualifierais de dysfonctionnelles. Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vu récemment dans le Jura, je ne dirai pas où, je ne sais même plus le nom de la commune. C'est une commune de montagne qui a choisi de faire entretenir un espace difficile et qui, en plus, a une forte fréquentation touristique par un troupeau de chèvres. Donc les objectifs classiques. Simplement se poser pour eux, je pense que ça se pose pour pas mal de gestionnaires, la question de la gestion du troupeau en hiver. En plus, dans le Jura, elles ne peuvent pas rester dehors en hiver. Donc, du coup, chaque année, la commune achète un troupeau de chèvres de réforme, d'exploitation hors sol de l'ouest, là aussi de l'ouest de la France, mais d'exploitation hors sol de chèvres laitières. Et à l'automne, ces chèvres sont transformées en salaison et vendues en viande. Et ils reconnaissent que le choc global qu'il y a au changement de conditions d'élevage fait qu'on a une perte de 15 à 20% des effectifs dans les premiers jours. Et puis après, les autres, elles s'adaptent. Alors on pourrait dire, oui, mais ces animaux de mer, ils allaient à la réforme. Donc ils ont eu un répit, bon, certes. Mais en même temps, on les transforme du coup uniquement, on les instrumentalise, il me semble, complètement, on les transforme en outils de gestion, et on néglige quelque chose qui, moi, me semble important, qui est ce qui fait le cœur, mais vous réagirez après, du travail d'éleveur ou de berger. Et je voudrais juste vous lire une citation d'une sociologue qui s'appelle Michèle Salmona, qui a travaillé beaucoup sur les paysans français, qui a fait un livre sur les paysans français, et qui disait sur l'élevage, en tout cas, je vous lis la citation. « Être éleveur, c'est avoir hérité d'un modèle affectif, un modèle culturel traditionnel dicté par le groupe, selon lequel l'homme traite ses bêtes avec attention, y apporte une vigilance permanente qui s'apparente au comportement de la mère avec le nourrisson et du soignant avec le malade. » Donc on est bien dans l'accompagnement, voilà, je ne vais pas commenter. Moi, les travaux que j'ai pu faire, effectivement, sur le pastoralisme en Ariège, je montre la même chose. Et donc, dans le pastoralisme classique, effectivement, il s'agit avant tout d'avoir des animaux en bonne santé, en bon état, des animaux qui poussent bien, etc. Alors, je ne cherche pas du tout ici à pointer du doigt cette commune qui a des objectifs qui sont tout à fait cohérents au départ, qui a cherché une solution technique, qui a trouvé celle-là. Simplement, il me semble que ça fait apparaître une certaine méconnaissance de certains acteurs publics, je pense, et sans doute aussi peut-être de certains acteurs publics, privés, pardon, sur la question animale et la gestion des troupeaux. Et il me semble que c'est peut-être sur la question du statut de l'animal qu'on a le plus de différence, peut-être, entre l'éco-pastoralisme, et, enfin, en tout cas, entre pastoralisme de production et pastoralisme de gestion. Donc, c'est sur ça que je vais développer mon deuxième point sur les compétences. Alors, la question des compétences, là aussi, je suis désolée, elle m'est apparue comme très complexe, parce que ça dépend. Ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend des objectifs qu'on a, ça dépend de qui fait. Donc, j'ai repéré, et on l'a bien vu aujourd'hui, que ces pratiques éco-pastorales, enfin d'entretien de l'espace par les troupeaux, on va dire, ça peut être le fait de collectivités en régie, on l'a vu, ça peut être le fait de prestataires de services spécialisés dans l'éco-pastoralisme, ou bien d'éleveurs qui vont faire une prestation éco-pastorale ou qui ne vont pas faire de prestation éco-pastorale. Il me semble d'ailleurs que c'était le cas de Mathieu tout à l'heure, qui intègre des ressources naturelles dans son système de ressources, mais sans se faire payer. Oui, il l'a dit. Moi, c'est gratuit. Et puis, les objectifs de la pratique eux-mêmes, ils peuvent être différents. On a à peu près toujours une question de gestion de l'espace, mais est-ce que c'est gestion d'un espace naturel? C'est le troisième intervenant, je crois, ce matin de la LPO, qui disait bien... soit on a vraiment un objectif de maintien d'une espèce ou autre, et là il y a des pratiques très fines, s'il s'agit juste de ne pas avoir des broussailles, c'est encore autre chose. Donc la gestion des milieux, dans certains cas la production de viande, mais aussi, ça a été évoqué, le développement de liens sociaux, là c'est encore tout un autre champ. La question de la conservation du patrimoine, à travers, dans ce cas-là, des races locales, on ne va pas dire rustiques, des races locales à faible effectif, locales ou pas locales. Et puis, ça a aussi été évoqué, il me semble que c'est assez prégnant, la question de la recherche d'une image positive aussi, peut-être par les collectivités, et peut-être dans certains cas, ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle dans le cas de la PAC, du greenwashing, laver plus vert. Hein. On fait de l'image, mais ça se limite à l'image. Et donc, selon les cas de figure, on va évidemment aborder la question des compétences de façon tout à fait différente. Moi, il me semble quand même qu'il y a un cœur de métier commun, et qui est ce cœur de métier commun, il rejoint les compétences des bergers en estive, en montagne. Pas forcément sur tout, mais moi c'est ce que je connais bien, mais ça va rejoindre les compétences des bergers classiques, on va dire. Bien que, alors là aussi, je fais part de ce que j'ai trouvé sur Internet, j'ai trouvé j'ai pas noté qui, comme ça, je sais pas si la personne est dans la salle, c'est pas grave, mais un prestataire qui cherche à se distinguer, d'après moi, du berger classique, et je vous cite ce que j'ai trouvé. Le berger moderne ne porte pas de veste en peau de mouton, Lors des visites sur le site, il va réaliser un certain nombre de tâches de contrôle qui demandent diplôme, compétences et expérience. Nous sommes bien loin du gardien de troupeau. Et là, je me suis dit, ça se passe comme si l'éco-pastoralisme devait se mettre en scène comme une activité moderne, à contrario du fameux berger classique, alors qui est porteur en France d'une forte charge symbolique, pas forcément la veste en peau de mouton, en général le béret, le bâton, enfin bon, on a beaucoup d'images comme ça en tête. Et pour qui connaît bien le petit monde des bergers, il y en a dans la salle, je sais, il y a souvent loin de cette image d'Épinal à ce que sont les bergers actuellement. Ils sont de plus en plus jeunes, ils sont de plus en plus féminins, ils sont de moins en moins originaires du monde agricole, ils sont de plus en plus formés à travers des formations qui existent sur les différents massifs. Et d'ailleurs, là aussi, j'ai appris que Patrick Sastre avait fait l'école du Merle, peut-être qu'il en parlera. Alors si on regarde les compétences, les grandes compétences auxquelles, que doivent avoir aujourd'hui les bergers transhumants, évidemment il y a différents domaines. Il y a la question des compétences que je vais appeler zootechniques, les compétences de l'animal, parce qu'effectivement la pratique pastorale elle est guidée par le... Alors ce que Michel Noré était peut-être intervenu la première fois, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un agronome de l'INRA qui a écrit un livre très intéressant, enfin qui a dirigé un ouvrage sur les savoirs de berger, et qui parle du point de vue de l'animal. Donc la pratique pastorale, elle se fait à travers le point de vue de l'animal, toujours. Donc premier point, les connaissances zootechniques. Deuxième point, la connaissance des milieux et des dynamiques de végétation en lien avec l'activité des troupeaux, avec l'action des troupeaux. Donc en montagne, ça va passer par des diagnostics pastoraux, des plans de gestion, c'est peut-être des termes qu'on va retrouver dans l'éco-pastoralisme. Mais voilà, on a des connaissances assez fines à ce niveau-là. Un troisième champ de compétences dont on parle moins et qui apparaît aujourd'hui comme de plus en plus important chez les bergers, c'est la gestion d'interface avec les autres utilisateurs de l'espace. Donc ça, c'est vraiment un champ très important. Et puis je dirais le quatrième qui va être très, très large, parce que je ne vais pas le développer, c'est une connaissance importante du contexte général d'exercice de la pratique, donc le contexte socio-économique, le contexte politique, juridique, institutionnel. Par exemple, le lien avec les propriétaires fonciers qui sont généralement des collectivités, hein, États ou communes, la question de la politique agricole commune, puisqu'on a ces fameuses des cahiers des charges agri-environnementaux, enfin un certain nombre d'éléments de ce type. Mais au-delà de ces connaissances fondamentales, ce qui me semble important de mettre en évidence, que j'ai retrouvé moi dans tous les travaux qui sont relatifs aux compétences des bergers, c'est que plus que les savoirs, ce qui est important, ce sont les savoir-faire et les savoir-être. Un bon berger se caractérise par ses capacités d'observation et d'adaptabilité. Ça ressort très fortement et toujours, ça je l'ai dit, avec un rapport à la ressource qui est appréhendé à travers le comportement des animaux. J'ai une étudiante de master l'an dernier qui a fait son mémoire sur les bergers, sur les compétences des bergers. Et elle a pu repérer que les connaissances zootechniques ou botaniques pures, fondamentales, on dirait souvent, n'étaient pas forcément très développées, même pour ceux d'ailleurs qui les avaient acquises en formation, mais qui au bout d'un moment les oubliaient, hein, la reconnaissance de plantes ou autre. Mais que par contre, ils étaient tous capables d'établir un diagnostic assez fin sur l'état de la ressource, sur la gestion de la ressource, à travers le comportement du troupeau, à travers les pratiques, les conduites alimentaires, les déplacements, le comportement grégaire des animaux. Puis bien sûr, en montagne, on a la question du climat et du relief qui est important. Enfin, peut-être ailleurs aussi. Et donc, finalement, un berger, en général, en boutade, on a tendance à dire qu'un berger qui semble ne rien faire, c'est un berger qui travaille bien. Parce qu'il observe, il guide, mais il intervient peu. Un bon berger intervient peu sur son troupeau. Et j'en profite pour rappeler aussi qu'un bon berger, je ne vais pas développer ça non plus, mais ne serait rien sans son chien de conduite. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très peu entendu là, mais un berger, c'est un chien, normalement. Un palais gros patou, hein, cela, ils servent à défendre les troupeaux contre les attaques de prédateurs, mais des chiens de conduite. Et que ça, c'est un champ complet de compétences aussi. Hein. Dresser un chien, avoir un chien, etc. Alors, je ne connais pas bien l'offre de formation actuelle, évidemment, sur l'éco-pastoralisme, mais j'ai cherché là aussi. Et moi, il m'a semblé, dans ce que j'ai pu repérer, que les thématiques qui étaient privilégiées, évidemment, naturellement, étaient celles sur la gestion des milieux, beaucoup plus que celles sur les compétences animales. Sauf la question des races. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pareil. Alors, je n'étais pas à l'atelier sur le parasitisme, mais voilà, la question des races est fréquemment abordée. Et c'est vrai que j'avoue que je suis surprise de voir la surreprésentation des races de l'Ouest, que j'aime bien par ailleurs. On est dans l'Ouest, il y a beaucoup de pratiques éco-pastorales qui sont dans l'Ouest, mais par exemple, je ne sais pas si Olivier Bourg, oh, il est là, qui interviendra après, en parlera, mais dans la ville de Foix, en Ariège, la préfecture de l'Ariège, ce sont des moutons bruissants qui font de l'éco-pastoralisme. Donc pareil, je n'ai rien contre le mouton bruissant que je trouve tout à fait charmant, mais je pense qu'on a des races à faible effectif, local, qui pourrait aussi, donc il y a des effets de mode aussi qui semblent apparaître sur les races, hein. Donc je pense que le mouton baissant, il est petit, il est mignon, je sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui se joue ici. Donc vous avez bien compris que ce que j'ai envie de vous faire passer comme message essentiel, c'est que je pense qu'il y a un enjeu très important à remettre la question animale au cœur des pratiques. Et pour moi, et j'étais très contente d'entendre les éleveurs en fin de matinée, moi il me semble qu'une des pistes les plus intéressantes, c'est de refaire le lien entre fonction productive et fonction d'entretien de l'espace. Alors qu'on soit clair, hein, je ne suis pas le chantre de l'entrepreneuriat privé, je ne dis pas que tout doit passer par l'action privée, et je pense que l'intervention publique doit se justifier dans un certain nombre de cas, et j'ai trouvé intéressant, par exemple ce matin sur Angers, je me dis que quand on est dans ce genre de situation, c'est sans doute un peu compliqué, on a des terrains qui sont disponibles et qui ne le seront plus. Bon. Donc, on peut être sur l'initiative publique, mais je crois qu'au moment où on est dans la montée en puissance de l'agroécologie en particulier, cet écopastoralisme qui conjuguerait production et gestion de l'espace, ça serait une piste particulièrement stimulante. Ce que je trouve particulièrement intéressant là-dedans, c'est de revoir ces espaces naturels ou urbains comme des ressources, de les envisager de nouveau, et là on est bien sûr de la pratique ancestrale, on va dire, de les envisager comme des ressources, y compris alimentaires, et de revenir finalement peut-être à un monde, soyons pas utopistes, mais bon, où tout l'espace ouvert serait ressource, et donc permettrait de produire des denrées alimentaires, et tout en valorisant ces espaces. Et là, effectivement, et surtout dans des régions comme ici, on est bien sur un modèle qui est complètement différent de celui qui a été impulsé par la PAC à partir de 1962, d'intensification et de spécialisation des exploitations et des espaces. Parce que là, ça suppose effectivement, comme dans le pastoralisme classique, de travailler sur la complémentarité des ressources, la complémentarité des espèces potentiellement, etc. Et donc d'avoir d'autres compétences. Alors ça existe hein, dans le pastoralisme classique, dans le sud-est de la France, on a ce qu'on appelle les herbaciers, ou au Pays Basque, les bergers sans terre, qui sont des éleveurs qui se sont installés sans terre en propriété, donc comme ce qu'on a vu ce matin, et qui donc perpétuent là, dans un sens, des pratiques presque, je dirais, d'ancien régime, hein, par rapport au rapport au foncier, hein, avant la montée du paradigme de la propriété privée. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que les évolutions de la PAC à venir renforcent, et plus l'urbanisation, les deux conjugués, renforcent la pression sur le foncier. Et aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour des jeunes agriculteurs, ou moins jeunes, de s'installer et d'accéder au foncier. Et donc, ce type de modèle permettrait d'aider à l'installation d'agriculteurs sans terre ou avec peu de terre, avec des projets un peu atypiques. Alors moi, je ne connaissais pas ceux qui ont parlé ce matin, mais j'ai découvert, il y a peut-être des gens dans la salle qui viennent de ça, des expériences sur les bords de Loire, avec une association entre le Conservatoire des espaces naturels et la Chambre d'agriculture, et puis à côté, une association de bergers ligériens qui font aussi, apparemment, hein, de l'accompagnement, du compagnonnage pour de l'installation de bergers. Donc on remettrait l'homme, le berger en l'occurrence, le berger pouvant être éleveur ou non, hein. Ça peut être l'éleveur qui garde lui-même ses animaux ou des éleveurs qui se mettent ensemble pour salarier un berger. Mais on pourrait mettre l'homme au cœur cette réflexion sur la réintroduction de l'animal dans l'espace public. Et du coup, je reviens à ma compétence des bergers d'estive par rapport aux autres usages. Il me semble que ce rôle de médiateur qui est ressorti de façon très importante ce matin, de médiateur avec les autres usagers de l'espace public, il pourrait être rempli par le berger, y compris le lien avec les habitants qui, je pense en particulier là en milieu urbain, en périurbain, doivent réapprendre à vivre avec des animaux dans leur espace de vie. Alors ça ne veut pas dire que les collectivités n'ont rien à faire, hein. Et d'ailleurs moi je suis très... très nouveau pour moi de parler de pastoralisme face à un public où il y a, je pense, beaucoup de représentants des collectivités, parce que c'est beaucoup moins fréquent dans le pastoralisme de production d'avoir les collectivités en face. Donc je pense que les collectivités ou les gestionnaires d'espaces naturels, ils ont un rôle qui reste essentiel, mais qui pourrait être d'abord orienté vers l'accompagnement de ces projets un peu atypiques, la consolidation de ces projets, notamment, ça a été dit ce matin, en passant des conventions de pâturage, en permettant aux éleveurs d'accéder, alors c'est peut-être un peu technique pour ceux qui ne sont pas du milieu, mais d'accéder aux aides de la politique agricole commune, parce qu'il faut une maîtrise foncière pour avoir ces aides. Donc plutôt ça que d'être sur la simple commande de prestations. Donc je vais conclure. C'était là les principaux éléments que moi je souhaitais porter au débat. En tout cas, il me semble qu'il est très important peut-être aujourd'hui de faciliter la rencontre entre nos mondes, c'est pour ça que je suis très contente d'être ici, entre le monde du pastoralisme classique de production et celui du pastoralisme de gestion. Je suis membre de l'Association française de pastoralisme et son animateur est là incognito d'ailleurs, au fond de la salle en rouge. Et sans erreur de ma part, dans l'Association française de pastoralisme, aujourd'hui, il n'y a pas d'adhérents qui sont des adhérents vraiment issus du monde de l'éco-pastoralisme, hein, pour simplifier. Je pense que c'est dommage parce qu'on a beaucoup de choses à échanger. Et juste pour finir là-dessus, j'en tiens un peu pour preuve le fait que dans notre formation, c'est quelque chose dans la formation de la licence professionnelle gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux, mais je pourrais faire passer une plaquette pour mettre sur le site aussi. On a de plus en plus de stages, des étudiants qui suivent des stages sur des questions d'éco-pastoralisme, alors soit de gestion des espaces naturels, comme on a vu avec Jeanne tout à l'heure, ou même de pastoralisme urbain. On avait un stagiaire sur la ville de Cherbourg cette année, et que nous réfléchissons, là, à l'université, on refait les maquettes de formation régulièrement, et là, on est en train de réfléchir à l'évolution de cette formation, et on compte intégrer un module de spécialisation sur le pastoralisme, je vais appeler là pour l'instant, de gestion. Donc voilà, on va dans ce sens-là, et moi j'espère qu'au-delà de cette rencontre, on pourra établir des liens et des partenariats entre nos deux mondes qui sont à la fois, parfois me paraissent très loin, et parfois me paraissent très proches. Voilà, je vous remercie.